Chapitre 11. Ainsi la nouvelle Athènes commençait à prendre forme. Une révolution. À chaque instant, Pisistrate était sur le terrain, rentré fourbu, s'occupait de ses enfants à l'occasion, de son épouse, de façon telle que cette jeune femme en vint à se plaindre à sa mère. Celle-ci la consola du mieux qu'elle pouvait, l'expliquant qu'elle-même voyait peu son Mégaclès, sans arrêt retenu qu'il était par la politique, l'acropole, les archontes, les tribunaux, la boulée, les travaux du Pirée ou Athènes. Moi j'occupé, Lycourgos faisait une cour assidue à l'épouse de Mégaclès. Elle n'en parlait pas pour éviter les cris ou une fâcherie pénible, voire dramatique. Et pour avoir la paix, elle en appelait à Héra. Outre qu'elle n'était pas bien jeune et ne comprenait guère en quoi elle séduisait encore, Lycourgos m'en avait chuchoté chez lui un soir de dîner bien arrosé. Mais de mon côté, je m'étais bien gardé d'en parler à personne, ni à Pisistrate. Après tout, cette histoire ne le concernait pas. Or, comme les deux femmes s'entretenaient d'habitude au sujet de leur mari, un matin, le Conoé arriva secoué par des sanglots. « Oh, je ne peux plus le supporter !» s'écria-t-elle devant sa mère. « Voilà du nouveau !» Après 6 mois de mariage, tant de lassitude. Mais ma mère, je ne suis pas un garçon. Non, je refuse. S'il est Terrasse, je ne veux pas être son nez romaine. Il veut toujours me prendre. Excuse-moi. Je ne comprends pas, ou alors c'est que... Mais si, justement. Il me répète qu'il ne veut pas d'enfant, de moi. Il en a déjà 2, ça lui suffit. Que je m'occupe de ses fils, et c'est tout. Ses mœurs contre nature me déshonorent. Je l'aimais pourtant, et aujourd'hui je le déteste. Il me reste mes seuls parents pour me défendre. Quand vous allez mettre en ordre, je me précipite dans un ravin. Ce comportement me dégoûte. « Mère, viens à mon secours, je t'en supplie. Quelle horreur !»« Eh bien, je vais en parler à Mégaclès, ton père. »« Tant mieux. Si mon père le sait, je ne veux pas vivre dans de telles conditions. Je ne veux plus vivre. Dès aujourd'hui, je ne retourne plus chez lui. Si mon père et lui se fâchent, ça m'est parfaitement égal. » Mon père ne va pas me contraindre, ce serait odieux. Il se doit de me protéger. Tard, ce soir-là, Mégaclès entra, fatigué d'une journée harassante. Tiens, ma fille chez ses parents, que signifie ? Praxinoé l'accueillit dans un lourd silence et Mégaclès s'en étonna. « Oui, dit-elle, notre fille est ici, chez ses parents, et pour cause. »« Comment cela, et pour cause ?»« Mais ta fille, enfin, notre fille, ne veut plus vivre avec Pisistrate, voilà tout. »« Mais une épouse doit tout à son mari. »« Oui, à condition que le dit mari se comporte en mari. »« Or, il n'en est rien. » Un homosexuel qui la prend comme un garçon, soumis à tous ces vices qui règnent dans ses certains enfants, le milieu, l'amour dévoyé. Pour ma part, je la veux sous mon aile. Je la garde chez nous, à l'abri. J'en appelle à Héra, notre déesse, de la femme et de sa dignité. Si Athéna est restée vierge, c'est son affaire.
Peut-être, mais dans ce cas, c'est notre famille qui perd la dignité dont tu parles. Oh, je ne tolérerai pas ce genre de caprice.
Mais ce n'est pas un caprice. Il s'agit ici d'un crime contre la loi d'Aphrodite. Et notre fille a le droit d'exiger la divorce. Je la soutiens. Jamais tu ne t'es permis de telles attitudes avec moi. À toi d'agir en conséquence. Je reviendrai pas là-dessus. Ta fille passe avant notre gendre. Et appelée ou non, Pisistrate. Tu te rends-tu compte des suites? Oui, mais la vie de notre fille en dépend. Vous, les hommes, vous prêchez la morale, la pureté de la nation grecque. Mais si Pisistrate refuse d'avoir des enfants outre les siens, grand bien lui fasse, qu'il épouse ailleurs. Ces pratiques sont indignes de notre famille que tu prétends illustrer. Tu as voulu les marier. Prends en charge ce qui en résulte. Mégaclès sembla soudain comme effondré par cette révélation. Pour lui, le mariage de Pisistrate avec sa tribu assurait à l'un et à l'autre un avenir doré. Que Pisistrate ait eu des mœurs homosexuelles, cela le regardait. Mais qu'il ait voulu les pratiquer avec le Conoé, le problème prenait un autre tour. Cette histoire finirait par se répandre. Mégaclès et sa famille Zalcméonide seraient l'objet de moqueries, de ridicules, voire de critiques acerbes. Lycourgos serait le premier à profiter de cette réputation. Les partis diraient que ses habitudes devraient rester dans le domaine de la littérature, de discussions entre les philosophes, mais absentes dans les alliances de sang entre les dirigeants et l'État. Mégaclès courut réveiller Lycourgos et lui confia l'affaire en personne et au plus vite. Tous deux tinrent conseil et décidèrent de faire comprendre à Pisistrate que sa présence à Athènes ne se justifiait pas. Il avait beaucoup fait pour la ville avec ses idées et ses réformes, mais là, il dépassait les bornes. Devant Lycourgos, Mégaclès reconnut son erreur. Dès l'aube et sans avoir dormi, ils frappèrent chez Pisistrate. Celui-ci fut très surpris de les voir arriver si tôt. « Tu repars sur le champ pour ton Rékélos, » dit Mégaclès, sans cacher sa colère. « Je t'avais fait confiance en te donnant ma fille. » « Tu as deux fils, c'est bien, je t'en félicite. Mais que tu traites ma fille comme un garçon, c'est insupportable. » Lycourgos, présent et moi-même, sommes d'accord pour éviter notre déshonneur et te dire de disparaître au plus tôt. Si la chose se sert en Attique, des sycophantes vont faire courir des bruits sur nos mœurs. Il va y avoir de graves désordres dans nos dèmes. Et nous allons être contestés comme chefs de parti. Moi, Mégaclès, je considère caduque et rompu ton mariage avec le Conoé. Tu veux pas des enfants avec elle, garde les tiens et va-t'en. Mais enfin, dit Pisistrate, je suis libre de... Tu ne discutes pas, tu fais tes paquets et tu prends le premier bateau. Pisistrate obtempéra. Avec ses fils et quelques plus proches partisans, il s'embarqua pour rejoindre Ligamis dans l'île de Naxos. Il retrouverait son meilleur et fidèle ami. Dès son arrivée, celui-ci prit le parti de Mégaclès. Il ne comprenait pas que les arguments de Pisistrate de ne pas vouloir d'enfants. Mais je t'explique. À mes yeux, l'alliance avec cette famille me menait en porte-à-faux, quoique seulement pour un temps. Je savais qu'elle ne durerait pas, parce que je connais la fourberie du beau-père. Nous n'avons pas parlé des héritages éventuels, et que mes deux fils pourraient s'en trouver spoliés plus tard, tôt ou tard. De ça, je ne voulais pas en entendre parler.
Bon, tu as décidé ainsi. Après tout, ce sont tes affaires. Cependant, je t'assure, travailler avec toi, soit pour une réconciliation, soit pour une action beaucoup plus forte au profit de notre vieille amitié, d'autant qu'à Naxos même, je suis prêt à mettre en application ta manière de concevoir un État. Tu t'es donné maintes preuves à Krykelos, et j'aimerais les répéter ici, à Naxos, si tu veux bien, outre que je n'ai pas de fille à t'offrir en mariage. Oh, j'aurais refusé ce marché, une fois suffi. Non, je te propose de former une armée, de construire une flotte qui complétera nos quelques bateaux de Raikelos. Ensuite, nous irons voir les gens de Calcis et d'Érétrie, qui seront ravis d'imposer à Athènes et aux deux énergumènes, Mégaclès et Lycourgos, de se soumettre à plus fort qu'eux. Et d'autre part, les gens de Naxos verront en toi un chef à suivre en toute occasion, avec des forces d'intervention, où qu'ils se souhaiteront. Leur sens du commerce y trouvera son compte, et nous deux par conséquent. Mes fils, Hippias et Hipparque, vont s'entraîner à la haute politique. Ils pourront diriger Athènes après moi. Car nous allons attaquer Athènes, je le sais. La chose est risquée, mais qui ne tente rien.
Chapitre 12. Lycdamis fut enchanté par ce projet qui allait lui assurer un pouvoir solide, voire faire de lui un tyran incontesté. Nos deux hommes partirent en campagne dans l'île, hameau après hameau, plage après plage. Ils organisèrent des réunions d'information, de propagande, d'invitation aux jeunes, rejoindre l'armée, participer aux entraînements, former à la navigation de guerre, parcourir les îles voisines, les lointaines, afin de se procurer du bois de construction pour les navires. Il fallait frapper monnaie, tisser en quantité, penser aux provisions de bouche, savoir observer le ciel pour la navigation de nuit, connaître parfaitement l'art de la voile et la science des vents. Travail considérable et patient, doublé du langage spécialisé de la marine, les signaux, les ordres, l'hygiène, les manœuvres. Nombreux mois furent nécessaires auprès de gens simples, pêcheurs ou bergers, d'habitude analphabètes. Mais le succès fut au rendez-vous. Lycdamis put présenter à Pisistrate une jeunesse enthousiaste, courageuse et décidée. Outre ses premiers éléments de combat, parmi eux, certains se montrèrent si doués qu'ils reçurent la responsabilité d'un commandement. Chaque bateau aurait ainsi son capitaine et des officiers de première classe. Ils étaient conscients qu'une opération navale d'envergure ne s'improvise pas. On n'oublia pas la question de la nourriture, de l'entretien, du rythme de vie. Le quotidien dans l'île fut à son tour objet de réflexion. Les habitants acceptèrent d'appliquer les idées de Solon en politique et en organisation sociale. On créa des dèmes, le tirage au sort des magistrats parmi les élus, magistrats tant civils que juridiques, établissement de lois adaptées à l'île. Ainsi Naxos devint en 2 ans un état complet avec son autonomie et son indépendance. Pendant cette période, Raikelos s'était développé
avait augmenté sa capacité d'intervention à l'extérieur. Pisistrate en profita pour retourner en Eubée, exciter les gens de Chalcis et Érétrie à cette attaque dont il profitait par retour d'investissement, récompense d'un effort de guerre. Ils discutèrent cependant l'âge de Pisistrate qui approchait les 50 ans, hésitant à lui confier le commandement suprême. Une maladie, un accident, l'affaire pouvait tourner court et les suites être désastreuses. Il lui fallut leur faire miroiter la mainmise sur toutes les îles des Cyclades et du Dodécanèse, domination de la mer Égée. Oh, cette force leur donnerait les coups des Franches face aux Lacédémoniens, voire à la Perse, qui installait de nombreux satrapes sur l'îlot. Ionie, et de ce fait, les menaçait. On voulut bien l'écouter. Les Érythréens continuèrent de rester circonspects au souvenir de leur précédente intervention à l'affaire de Phryée qui n'avait pas abouti. Pisistrate, quand même évincé après cette tentative, certes amusante, mais sans lendemain. Après cette nouvelle guerre, est-ce que Pisistrate arriverait cette fois à se maintenir au pouvoir, à payer sa dette? La société athénienne accepterait-elle une forme de tyrannie doublée d'une influence ébéenne? Il avait beau promettre, l'avenir est toujours incertain. Il faudrait interroger l'oracle de Delphes, dont les réponses restent souvent ambiguës, sinon trop difficiles à interpréter. Et quand on consulte sur un problème de ce genre, des oreilles indiscrètes connaîtront ses propos. Ses projets ne se prendront pas d'informer les Athéniens. Bavards et sycophantes distribueront leurs avertissements partout. Et la chose arrivera jusqu'à Mégaclès et Lycourgos. Pisistrate avança son argument suprême. Les mines du Pangée qu'il exploitait. C'est une vraie fortune qui les aiderait de toutes les manières. Les Eubéens y furent assez sensibles, étant donné qu'ils étaient commerçants dans l'âme. L'argent est de tout temps le nerf de la guerre. Pisistrate revint à Raïkélos pour emporter définitivement l'accord des Eubéens. Lui et sa troupe s'embarquèrent pour le B sur une vingtaine de bateaux suffisamment équipés. Oh, ce n'étaient pas de vrais vaisseaux de bataille navale, mais ils pouvaient offrir leur service aux troupes auxiliaires. De leur côté, les Chalcidiens acceptèrent que Pisistrate prit le commandement sur leur vaisseau amiral et précisa la stratégie qu'on appliquerait puisqu'il connaissait en détail la rue et le port du Pirée.
Par une nuit fortement ennuagée, du port d'Érétrie, la flotte leva l'ancre sans bruit. Le littoral sud de l'Afrique, l'Attique, n'était pas loin. Des alliés argiens et thébains s'étaient déjà rassemblés sur la plaine de Marathon pour attaquer Athènes par le nord. Ils anéantirent des guetteurs trop curieux qui auraient pu courir vers Athènes et prévenir. Côté sud, en mer, l'obscurité était profonde et dissimulait l'armada. Bientôt, on doubla le cap Sounion. Depuis son petit temple, Poséidon accorderait sa protection. Les trières longèrent lentement le littoral sud vers le Pirée. Et toujours dans l'ombre, les navires se déployèrent en demi-cercle à quelques milles au large. On attendrait le lever du jour avant d'éviter toute erreur. Enfin, aux premières lueurs, sur la Trière amiral, Pisistrate décida de prendre la tête et d'accoster en plein centre du Pirée, juste avant l'apparition du soleil. Tous les autres suivirent en forme de coin pour se déployer en temps voulu. Branle-bas de combat. Solidement armés, les hommes de Raïkalos et les Eubéens envahirent précipitamment le Pirée et tous ses quais. On prit sans résistance la garde du Pirée et le gros de l'armée s'élança en direction d'Athènes, Pisistrate en tête. Il fallait immédiatement occuper l'Agora, encercler l'Acropole, prendre de force la Pnyx, lieu de réunion de l'Aréopage, arrêter la garde des Archontes, enfin rassembler toute la ville et l'avertir que Pisistrate était de retour et allait s'adresser à la foule pour expliquer la situation. À ce moment, entrèrent aussi dans Athènes les troupes venues de Pylaraton. Au milieu de la matinée, Pisistrate tenta de prendre la parole, mais dans la foule devenue soudain compacte et bruyante, sa voix ne portait pas assez. Il se dirigea vers l'escalier qui mène à l'Acropole afin de se trouver en hauteur et que tout le monde pût l'entendre. « Athéniens, vous me savez des vôtres. Je ne veux aucune guerre contre vous. Tous ces soldats qui m'accompagnent sont Athéniens, Argiens, Thébains, Eubéens, qui partagent mes idées et mes projets dans l'intérêt de nous tous réunis ici. Ces soldats, répandus dans la ville, vont aller chez les uns et chez les autres, prendre vos armes et les déposer dans le vieux temple de Thésée. Ceci afin d'éviter une bataille inutile. Et au lieu de vous imposer à eux, contribuez aussi à l'établissement de la paix dont nous avons tous besoin. Au lieu de vous imposer à eux, contribuez aussi à l'établissement d'une paix dont nous avons tous besoin. Assez de mésententes entre les parties, assez de contestations, assez de misère à travers notre chère Attique. Il est temps de nous mettre au travail, de construire notre force et notre liberté, notre démocratie, notre belle Athènes, notre puissance sur la mer et dans toute la Grèce. Oui, je suis aujourd'hui revenu parmi vous, de qui j'attends la grandeur et la force, sans vouloir vous priver de quoi que ce soit. Au contraire, je désire votre rayonnement dans le monde. Je le répète, assez de dissensions, de violences et de larmes et de haine. Avec vous, j'insiste, avec vous, je ferai de notre Athènes la ville modèle, la ville où viendront vivre savants et artistes, sages et philosophes. Je veux avec vous que notre ville passe pour la mère de l'intelligence et de la beauté, que notre grande déesse Athéna montre au monde entier le chemin emprunté vers la joie et la sérénité. Que ce soit vous, les Athéniens, à qui les générations futures seront reconnaissantes d'avoir appris aux civilisations le meilleur de l'homme. Avec vous, j'inviterai les plus grands esprits à enseigner ici les valeurs exemplaires. Avec vous, des gens du monde entier seront fiers d'avoir fait chez vous leurs études les plus poussées dans tous les domaines. Ils viendront de Crète, de Lesbos, de Milet, de Perse, de Thrace, de Macédoine. Oui, citoyens d'Athènes, je suis ici pour vous y aider, vous encourager. vous féliciter d'avance pour votre œuvre et que partout on dise « Athènes nous a tout donné ». Malgré la résistance de quelques-uns, Pisistrate reçut une ovation. Mégaclès s'approcha et lui dit « Après tout, pourquoi pas ?» Certains refusèrent de rendre leurs armes, peu tout compte fait. Le programme était vaste. D'une ville ancienne, archaïque, divisée, où Solon avait déjà fait faire quelques progrès, il fallait créer une ville moderne comme on n'en avait jamais vu. On le sait, Pisistrate voulait opérer une révolution politique, sociale, scientifique, littéraire, religieuse. Mais tout y était à inventer. Ailleurs étaient nées des civilisations brillantes. Athènes devait les dépasser. Athènes devait remodeler le sens de l'existence, de la pensée, de la sagesse. Non, le programme n'était pas vaste. Il était hors des normes connues. Sous son impulsion, Pisistrate rêvait d'un destin extraordinaire pour sa ville, celle de sa famille, de ses contemporains, de ses amis et même de ses ennemis pas encore persuadés. Il finirait par les rassembler sans exception. L'enrichissement serait mesuré, la pauvreté réduite à un souvenir. Le travail serait un honneur, le commerce flamboyant, les arts au sommet. La vie quotidienne serait celle d'un nouvel âge d'or, comme au temps de Chronos. Je fus chargé d'aller dans tous les dèmes prêcher la bonne parole. À l'ombre des figuiers, on parla, on adhéra, on discuta, mais on décida d'adhérer. Le pari de Pisistrate valut la peine d'être lancé. Quelques-uns considérèrent cette œuvre entreprendre comme celle d'un tyran, et je leur objectais que la réussite était à ce prix. Il en coûterait des sacrifices, des luttes, de la patience. Athéna serait là, avec eux, pour les protéger, les inspirer, leur donner le désir d'un destin fabuleux. Quelques années avant, Pisistrate avait déjà réussi la construction de la fontaine Néacrounos, et elle fonctionnait. Elle était devenue un lieu de rencontre où se désaltéraient les bavards, où les filles se faisaient siffler, surtout les plus belles accompagnées de leurs ânes battés d'outre. Et si le reste du projet donnait les mêmes résultats, il faudrait bien reconnaître que la tyrannie de Pisistrate méritait d'être prise au sérieux. Pour commencer, Pisistrate décida la mise par écrit des poèmes homériques pour que tous les enfants puissent les apprendre en détail. Ainsi, juste après peu de mois, arrivèrent en masse des liasses d'un papier venu d'Égypte. Sous la dictée d'Aède invité, des scribes écrivirent l'Odyssée en plusieurs exemplaires. La jeunesse allait en profiter pour découvrir dans Télémaque une foule de vertus. Il était le fils fidèle parcourant le monde à la recherche de son père. Il était ce fils parfait d'une Pénélope, mère courageuse, image d'abnégation. Soucieuse de conduire au mieux les biens et la fortune d'un époux adoré. Occupée à la santé, au bonheur des siens. Sachant parfois recevoir des amis d'Ulysse, hélas, peu polis, osant prétendre à la main de la sage épouse. Car Ulysse passait pour disparu depuis la fin de la guerre de Troie. Tous les autres héros avaient fait leur retour triomphal, Ulysse, non. Pénélope refusait de croire sa mort. À Télémaque, elle avait prêché la patience. « Ton père reviendra !» Et Télémaque avait cherché partout, rencontré des rois, des états bien gouvernés, des héros revenus d'un genre déjà célèbre. Et comme Télémaque, le jeune Athénien apprendrait, retiendrait, ferait table rase du passé pour construire une vie pour elle, nouvelle. Dans sa langue savoureuse, ce poème d'Homère édictait une morale familiale que Pisistrate désirait inculquer aux générations. Après l'Odyssée, les scribes écoutèrent le récit de la guerre elle-même et se décidèrent à la mettre aussi par écrit l'Iliade. La morale n'y était plus celle de la famille. Le poète célébrait la puissance des dieux et des héros. Héros de guerre, bien sûr, mais héros de grandeur, de justice, de noblesse. Héros de cœur, avec le sens du dévouement absolu et de l'amitié à son sommet. Achille y est le modèle du grec, en ce qu'il y a de plus faible, mais en outre de plus grand. Il n'a pas peur de pleurer dans les bras de sa mère Thétis, mais il sait se reprendre, devenir terrible pour venger la mort de son meilleur ami d'enfance, Patrocle. Et puis, dans l'Iliade, on trouve la sagesse de Nestor, la puissance des deux Ajax, la punition des bassesses, la ruse d'Ulysse qui nous enseigne comment venir à bout d'une victoire qu'on espérait presque plus. Achille y accepte de recevoir et d'honorer Priam, le père de son ennemi Nestor. Achille, pour les jeunes Grecs, devient le modèle de la piété, de la hauteur d'âme, guerrier terrible, oui, mais généreux, quand il le faut. Il meurt, son destin est sublime, comme un idéal de vie. L'Iliade, mais ce sont aussi les dieux qui nous aident. Quelquefois, ils prennent un mauvais parti, mais gagnent quand même au profit de l'honnêteté et de la justice. Athéna était sur le terrain, mais elle est venue dans Athènes enseigner ce qu'il y en est de la guerre. L'horreur, la misère, la mort pour rien. Et ce fait, elle sait les valeurs de la paix et donne les leçons. « Es-tu bien certain, lui dirent un jour Mégaclès et Lycourgos, que cette morale que tu veux répandre parmi nous est la bonne ? Faire table rase du passé ne nous semble pas digne du respect dû à nos ancêtres. Les tiens aussi. » Égée, son fils Thésée, ils nous ont libérés de l'emprise crétoise. Alors devons-nous les oublier? La révolution de Dracon, les réformes de Solon, sont-elles lettres mortes, selon toi? Ce passé n'a-t-il pas eu aussi glorieux? Nous avons une morale civique, mais nous avons des institutions qui satisfont la majorité. Cette table rase que vous m'opposez n'envisage pas l'oubli total de ce qu'ont fait de mieux nos ancêtres. Il s'agit de les perfectionner, de leur apporter le sang nouveau, non plus de faire grandir un ensemble déjà acquis, mais de mettre l'individu seul face à son destin de citoyen, en pleine possession de lui-même. Vous savez que les entreprises de Solon n'ont pas vraiment abouti, que son exigence de secouer le fardeau de l'esclavage pour dette n'est toujours pas en vigueur. Cet esclavage existe encore
et vous n'y êtes pas étranger, que je sache. Je veux que son premier essai de démocratie soit enfin appliqué. Il a été mon maître, et moi-même lui ai reproché qu'il n'en avait pas fait assez. Il a été tellement critiqué qu'il a dû s'éloigner d'Athènes pendant 10 ans, écrire et publier des poèmes où il insiste pour dire qu'on ne l'a pas écouté. Et aujourd'hui, c'est à moi que vous vous en prenez. Le petit peuple me comprend, lui. Vous, à travers vos critiques, vous regrettez votre morale de jadis. Vous ne voyez que vos intérêts d'argent, vos arrangements et vos alliances calculées. Je veux que chaque Athénien se prenne en charge, que le plus pauvre ait droit à la parole autant que vous, qu'il ait le pouvoir de proposer une loi et de la faire voter. C'est finalement cela que vous cherchez à combattre en me combattant. Si ce que vous appelez ma tyrannie donne à chacun sa liberté, eh bien je serai tout pour la maintenir et le petit peuple sera mon meilleur défenseur. Travaillons au lieu de bavarder. Homère nous donne une voie à suivre, des exemples incontestables de grandeur et de gloire, de générosité et d'amitié. Si vous les refusez, libre à vous. Moi, je persiste dans mes choix. Pour remercier les Argiens qui avaient participé à la reprise du pouvoir, Pisistrate se rendit à Argos. Charmé par la beauté du pays, et en particulier par celle des filles, il avait beaucoup remarqué une certaine Timonassa. Il voulut rencontrer le père Gorgios, lequel lui accorda la main de sa fille, dont Pisistrate et 2 autres fils, Iophon et Égisistratos. Ceux-ci non légitimes, car leur mère, quoique libre, n'était pas athénienne de naissance. Chapitre 13. Aux yeux de Pisistrate, l'école et la connaissance d'Homère ne suffisaient pas. Il fallait au peuple de grandes manifestations publiques. Dans ce domaine, je ne pouvais qu'abonder. Les peuples ont besoin de se réunir autrement que pour faire de la politique. Un campagnard, natif de Marathon, du nom de Thespis, organisait des spectacles propres à répandre la gaieté parmi les gens de son cru. Avec sa petite troupe, il s'amusait à inventer, parmi les rues et les faubourgs, des petites scènes comiques dont le succès grandissait. On l'avait vu dans tous les dèmes, surtout ceux d'Athènes. Il logeait dans une sorte de roulotte où il transportait de petits panneaux de bois suggérant décors de champs ou de maisons. Il avait aussi fabriqué des masques pour représenter les dieux ou les héros de la mythologie, dresser des chiens savants, fait de son âne un acteur, et chaque fois qu'il préparait un spectacle, il invitait les gens du dème à jouer les utilités. De cette manière, la population prenait une part active à ses comédies. En fin d'après-midi, il s'installait au pied de la première colline venue, plaçait les spectateurs en hauteur et en demi-cercle. Thespis et sa troupe, déguisés selon le sujet, provoquaient des éclats de rire sur le dos des célébrités locales à propos de divinités ridicules comme Satyre et Silène. Tel politicien lui servait de pelote d'épingle. On l'applaudissait sans rompre. On rentrait chez soi, repu de bons moments, sans oublier les trouvailles et astuces de ce malanin audacieux sinon provocateur. Pisistrate l'avait parfois vu, écouté, suivi, applaudi. « Tes idées m'en ont donné, » lui disait-il par hasard. « Pourrais-tu organiser de beaucoup plus grands spectacles qu'on présenterait au pied de l'Acropole ? Tout Athènes y viendrait, non ?»« Ah, Zeus, » reprit Thespis, « l'idée me semble excellente. » Comprenant les bas-flancs de l'Acropole, cependant, ils ne sont que tas de cailloux. Je ne vois pas bien comment le public accepterait de m'y asseoir. Ou alors, rétorqua Pisistrate, alors on y construit des gradins. Oh, dans ce cas, mais n'a pas l'argent pour ça. Peu importe, pour le plaisir du peuple, le trésor public s'en chargera. Et si je me déguise en Pisistrate et fais rire de ta personne, t'es tyran, comme on dit. Gare à toi, mais surtout, gare à moi. Mais pas du tout. Je connais mes ridicules et mes faiblesses. Bon, bah, tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Eh bien, chiche, répondit Pisistrate. Sitôt dit, sitôt entrepris. La foule participa. On dégagea les cailloux que Thespis redoutait. Ils servaient à une autre construction, car Pisistrate pensait à bien d'autres projets. Non seulement au bas de l'Acropole, mais aussi au-dessus. Le vieux temple d'Athéna menaçait ruine, et dans un coup de vent, la statue de Promachos avait failli tomber de son socle. Et parmi ses travaux, Thespis aperçut Pisistrate. « Tu sais que je joue d'habitude sous la protection de Dionysos. » Ben, évidemment, ensuite. Ensuite, ben, il faudra en profiter pour lui dédicacer une fête somptueuse, avec des processions, des repas publics, des danses échevelées, des concerts. Occasion de montrer nos chevaux en cavalcade, outre ceux des hippomotes de Thessalie, dont les élevages produisent les plus belles races. Outre que ton grand ami Léoclès pourrait prendre en main ce genre de spectacle. Je te redis mon soutien. Figure-toi que j'ai déjà rêvé de ce genre de grande manifestation, car Dionysos m'est apparu en songe et m'a parlé de grande Dionysie, afin que les Athéniens sachent ce qu'ils lui doivent. Je lui ai promise pour les débuts de printemps. Donc, pour les fêtes, tu présenteras tes drames, tes comédies. Tu encourageras de nouveaux auteurs qui composeront des tragédies. Nous avons déjà les Panathénées en début d'été. Les filles de l'Attique qui présentent les plus beaux tissus qu'elles ont préparés pour voir venir Athéna. C'est une fête sérieuse qui manifeste la piété du peuple. Or, ces futurs Dionysies seront orientés seulement vers le spectacle, donc le théâtre. Le peuple a besoin de distractions. Je t'en confie les responsabilités. Pisistrate regardait souvent sa ville, ses ruelles, ses maisons banales. Il n'y avait aucun souci d'élégance, pas de statue dans les carrefours. De mauvais garçons y traînaient, désœuvrés, agressifs. Il décida de mettre les sculpteurs au travail afin de repenser l'urbanisme. Aucune œuvre d'art ne se trouvait dans les maisons, à l'exception du seul nécessaire à la vie courante. Chez les pauvres, qu'ils connaissaient bien, il fallait remédier à ces dénuements. Sur le marché de l'Agora, Pisistrate remarqua qu'un potier, vendant coupes et aiguillères de couleur noire et brillante, en place des pierreries ordinaires. Oh, c'est nouveau ce que tu fabriques, constata Pisistrate. Oui, non. Oh, j'en peux faire aussi en ocre rouge, en jaune, avec dessin. Fort bien, mon ami. Pourrais-tu peindre des personnages? Je ne sais faire que du géométrique, des zigzags, des feuilles. Pour des personnages, je devrais embaucher les premières habiles, des peintres habiles. Mes poteries seront plus chères. Et puis, quel personnage! Mais les gens de tous les jours. Ah! Et puis des jeunes courant à la palestre, des athlètes de Jeux Olympiques, des familles à table, des dames à la coiffure, qui sais-je? Tu as des sujets à foison. Peut-être, répondit le potier. Mais les prix vont monter. Faudra passer un temps fou à l'exécution de ces décors. Eh bien, j'achèterai tes premiers essais. Zeus m'en est témoin. Ton nom? Douris. Eh bien, dans 8 jours, je veux une belle guerre jaune à bandeau noir et sur le pourtour des champions olympiques en train de courir. Tu marqueras au-dessous Douris et Poyesen dans ta signature. Ce ne sera plus un simple pot, une œuvre d'art et signée d'un Douris ma fête. Je te garantis rien, mais je vais essayer. Tu as ma promesse. Le bruit courut parmi les potiers et très vite l'agora vit à la venivante un nombre important de ses œuvres qui eurent un succès total. Même les plus luxueuses furent achetées sans discussion. Les diverses signatures se firent connaître au-delà d'Athènes, en Ionie, dans les îles, en Eubée, jusque dans les colonies de Sicile et d'Italie. Elles avaient encore été l'objet de cadeaux odieux. On y admirait les gestes de la vie quotidienne, les repas en famille, la grâce des jeunes filles s'adonnant à leurs jeux, les scènes de la mythologie, les sports, les batailles, chevaux et bœufs, les portraits des habitants du Colosse, l'Olympe. Tous ces succès commerciaux, inspirés par Pisistrate, contribuaient à rendre l'homme de plus en plus accepté. L'argent rentrait, la pauvreté devenait plus rare. Les Athéniens en vinrent à réclamer plus à Pisistrate, comme lui-même en avait demandé plus jadis à Solon, dont les lois étaient enfin appliquées dans toutes les institutions. Justice, finance, apaisement dans les dèmes de la campagne. Et c'est alors que la véritable démocratie devint un principe de gouvernement. Tout le peuple put alors s'exprimer dans cette assemblée appelée Ecclésia. On vit apparaître les premiers grands orateurs lançant de violentes diatribes pour ou contre telle loi proposée, telle guerre envisagée, telle alliance ou conquête. Athènes devenait pour toute la Grèce la ville référence. Et du côté de l'Empire perse, on éprouva l'inquiétude de voir naître un ennemi potentiel.
Chapitre 14. Dans Athènes, peu de monnaie. Les échanges se faisaient en majorité au moyen du troc.
rendaient un service contre du travail, des produits divers, de la nourriture, des animaux de boucherie. Seules quelques familles riches possédaient de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. On voyait parfois circuler des pièces venues d'ailleurs, en cuivre ou en bronze, presque jamais en or. La Grèce n'avait pas de régions aurifères comme la Phrygie, la Perse, l'Égypte. Pendant toute sa vie, l'Athénien moyen ignorait ce que pouvait être une bourse attachée à sa ceinture, le paysan encore moins. On sait combien la misère avait irrité Pisistrate, comme ses copains dans notre jeunesse, et même quand il avait son rôle de grand politique, à qui l'on demandait souvent ses idées, ses interventions, son secours, voire ses ressources personnelles. Parfois aussi, il me sollicitait, mais je lui montrais combien ce partage, si louable par ailleurs, risquait de le ruiner et les siens. Mon père, déjà vieux, je lui reprochais, tout en participant, par vente de son blé. Ses partisans de la montagne vinrent un jour le trouver et suggéraient d'aller visiter les monts du Laurion, où l'on avait découvert des mines de plomb argentifère. Il m'en parla. Séduit comme lui, je l'ai vivement encouragé à les faire exploiter sans retard. Le trésor public manquait de fonds. Le commerce extérieur avait rapporté un peu de monnaie étrangère, mais en quantité largement insuffisante. Elle pouvait enfin être compensée. Des frondeurs se mirent aussitôt au travail. On allait pouvoir frapper des pièces aux emblèmes choisis pour Athènes. Quelques frondeurs proposèrent de frapper une image d'Athéna sous l'aspect d'une chouette. Décision fut votée. Le trésor public en fut presque submergé. Les Hellénotmanes, ou trésoriers, payèrent en argent les travaux commandés par l'État. Cette richesse soudaine permit à Pisistrate d'envisager de grands travaux, outre ceux du théâtre achevé. Par la découverte de cet argent, on avait la preuve que les dieux protégeaient Athènes et toute l'Attique. Je me suis permis de lui manifester quelques réticences. Cependant, alors qu'il était parti consulter l'oracle de Delphes pour des raisons personnelles, Pisistrate me chargea de convaincre la foule de voter un budget afin de construire sur l'Acropole un temple de 100 pieds de haut pour y abriquer la statue d'Athéna. Et j'eus le plaisir d'être écouté. Sculpteurs et architectes furent convoqués. On mit leurs expériences respectives à contribution. Athéna méritait quelque chose de très grand en marbre du mont Panhellénique, le plus pur, le plus éblouissant, digne de la grande déesse vierge, un Parthénon long de 100 pieds, et qu'Atonpédon, le travail serait colossal, demanderait du temps, des techniques révolutionnaires, des ouvriers qualifiés en grand nombre. Un outillage à inventer. Faites, leur dit Pisistrate, puisque Léoclès a obtenu les fonds. Avec des observateurs, j'ai pris le bateau pour Éphèse, car le bruit avait couru que cette ville ionienne poursuivait la construction d'un temple en marbre dédicacé à sa déesse protectrice Artémis, sœur d'Apollon, vierge elle aussi. Par la suite, j'ai invité des architectes athéniens à s'y rendre, y relever les plans. Ils prirent les mesures, complétèrent les colonnes, notaire force d'État et à piloter, à exploiter, à leur tour, ou à modifier selon les nécessités de l'acropole et de son orientation. Ils établirent un projet que Pisistrate créa. Très vite, on prépara le soubassement auquel devait être parfait comme soutien d'un gros édifice destiné à durer dans les siècles. Cependant, Pisistrate refusa que les chapiteaux soient de l'ordre ionique, comme à Éphèse, avec leurs cornes de bélier. Les chapiteaux devaient être typiques pour Athènes, et de ce fait, on adopta la coupe d'un cône inversé surmonté d'un tailloir carré, l'ordre dorique. Un matin, Hipparque, le fils aîné de Pisistrate, le saisit par le bras de son père et lui dit « Père, ne crois-tu pas que tu dépenses beaucoup ?»« Ah oui, oui, Solon m'avait déjà fait, dit ça, j'en faisais un peu trop. » Moi qui prépare un avenir pour un frère, était droit. Mais nous sommes assez grands. C'est vrai, oui, vous êtes grand et fort. Un cheval est grand et fort, lui aussi. Il y a du cheval dans vos noms. Hipparque, Hippias. Parce que votre naissance, on a pensé à votre grand-père Hippocrate. Ensuite, parce que mon ami Théoclès vous a, comme tout jeune, connu tout jeune et se passionnait pour les chevaux. Je voulais qu'il s'occupe de vous deux et vous transmette sa science. Et tu imagines que les Athéniens prendront ces seules comme garantie d'être bien gouvernés? Oh, je crois que tu rêves. Non, mon fils, il serait temps d'être sérieux. Mais le petit peuple ne va pas se nourrir avec un temple. Erreur, mon fils, le petit peuple a trouvé ainsi du travail, est largement payé selon ses compétences, ses efforts. Tous ces travaux ont été acceptés par la boulée dans laquelle on rencontre des gens de tous les partis. Si je désire ces travaux, ce n'est pas fantaisie de ma part. Autant que le vieux Mégaclès, je suis capable de faire des calculs. Non dans mon intérêt, comme lui le fait, mais pour la gloire et la domination de notre ville dans le monde grec. En place de critique, tu devrais mieux mesurer les conséquences de nos entreprises. Seul on avait pensé qu'à des lois utiles et justes. Je veux le dépasser. Je veux qu'Athènes soit prise, qu'Athènes, un lieu incontournable, un lieu où tous les arts trouvent leur modèle dans une démocratie florissante. C'est à cela que tu devrais m'aider. Tu dois en persuader aussi ton frère. Qui passe trop de temps à s'amuser avec vos copains. Sans arrêt, vous entassez fête sur fête, et la chose commence à irriter. Je suis las de votre fainéantise. Je vais y mettre de bon ordre. Si j'en fais trop, après tout, c'est mon affaire. Le peuple est avec moi, comme je suis avec lui. Assez, va, et garde tes remarques pour toi. Il est vrai. Pisistrate en faisait beaucoup, pour lui pas assez, puisque l'argent était là. Il envisagea même de faire construire encore d'autres temples. Celui d'Athéna était en route, les autres dieux en seraient jaloux. Alors on devrait leur dédicacer leur temple à eux, ce serait un Olympion. Devant la boulée, il me fallut encore me dépenser en arguments. Et réussite. La boulée fut enthousiaste, et d'autres travaux furent lancés à l'est de l'acropole, en pleine ville. Athènes deviendrait la ville des dieux grecs. Ils descendraient de leur Olympe et aurait en demeure chez les Athéniens pour y goûter des plaisirs infiniment plus doux que leur nectar. Ils se régaleraient d'olives et de figues, pas seulement les dieux. L'ancien temple de Thésée, non loin de l'Agora, en bois vermoulu, on devait le remplacer par un autre digne du héros légendaire. Il avait délivré Athènes de la domination crétoise. On lui fait bien ça. Certes, après sa victoire contre les Minotaures, il avait trahi l'amour d'Ariane. Sans elle, lui et ses copains seraient tous perdus ou morts dans le labyrinthe. Mais la liberté d'Athènes valait tout. Et chez les Athéniens, une reconnaissance décidément éternelle. Dans les campagnes, plaines et montagnes, Pisistrate partit à la fois pour voir les progrès de l'agriculture et en profiter pour serrer des mains, demander la réfection des habitations. Et quand on se plaignait à lui du manque d'argent, il ouvrait sa bourse, encourageait des travaux utiles. Les hameaux d'Édème étaient eux aussi l'objet de sa vigilance. Avec ses aides, les habitants travailleraient, auraient soin de leur vie quotidienne, resteraient chez eux au lieu de traîner dans Athènes à ne rien faire et à s'agiter. Ceux des montagnes feraient beaucoup d'élevage, récolteraient du miel, creuseraient dans les mines, achèteraient de la poterie, faite en ville, seraient agriculteurs, mais participeraient au commerce, au marché. Ceux des plaines ne devaient plus vendre que des fleurs, comme fillet naguère, mais des céréales, des légumes, bref, une nourriture locale, fraîche, et non plus importée. Dans chaque dème, je l'ai accompagné, afin d'y organiser le principe des élections, choisir et non plus tirer au sort les démarques. À eux de s'occuper des écoles, des jeunes et faibles en âge de faire leur service militaire, de rendre justice, d'apaiser les conflits, pour alléger les tribunaux de la ville. « Crois-tu, lui, dis-je un jour, que cette entreprise... »« Non, non, Léoclès, cette entreprise, comme tu dis, aura son avenir. » Cette extension aux problèmes financiers de campagne demandait aussi de l'argent. Malgré force et regrets, Pisistrate se vit contraint d'avoir à proposer à la Boulet la création d'un impôt pour la première fois dans l'Attique. Afin d'éviter de nouveaux affrontements dans la population, tout parti confondu, la Boulet exigea qu'un seul dixième des revenus fût voté avec la promesse de faire une analyse complète des moyens de chacun. Une dîme suffisait en comparaison des grosses injustices qui avaient régné avant Solon, lequel avait supprimé le fardeau que l'on sait et dont on se souvenait encore. Vu son aspect modique, tout compte fait, le peuple adopta cette dîme, même en campagne, sans trop rechigner. Ah oui, je m'en souviens. Au cours d'un de ses déplacements dans les montagnes, Pisistrate admira le courage et l'abnégation d'un paysan qui transpirait fort dans un champ en pente où abondaient plus les pierres que les récoltes. J'étais presque gêné devant tant de misère. « Tu es un homme exemplaire, lui dit Pisistrate. Si tout le monde en faisait autant que toi, toute l'Attique serait riche. Bravo, l'ami, je te félicite. Ta famille doit sûrement s'en porter du mieux possible. Viens-tu souvent en ville pour vendre au marché de l'Agora ? » L'homme venait rarement à Athènes, et il n'avait pas reconnu Pisistrate.
Oh, tu vois, répondit-il, dans quelle terre je m'épuise. Bien sûr, je récolte un peu, tout juste, le moindre nécessaire pour faire manger femmes et gamins, les habiller de tri-fripes. Tu les vois là, pieds nus. Parfois, notre pauvreté me fait pleurer. Jamais une friandise du petit gibier, quand j'en trouve, du pain de temps en temps. Je prie Déméter, mais sa protection, je l'attends chaque jour. Et avec mon travail, le pauvre paysan et la terre que tu vois, il faudra encore que je paye 10% de... Mais rien du tout à ce pisistrat de malheur. Ah, c'est beau, je ne puis m'empêcher de crier au paysan. Oh, bonhomme, mais c'est le nom de pisistrat que tu insultes. Oui, tant mieux, par Zeus, quand j'en ai trop sur le cœur. Pas autant que moi, répliqua Pisistrate, très ému par la vaillance de ce citoyen si méritant. À compter de ce jour, écoute-moi bien. Je suis Pisistrate. Je donnerai l'ordre que tu n'aies plus à payer la moindre dîme, toi, ta famille et tes descendants. Sache que Pisistrate sait entendre et récompenser le courage. Soudain, l'homme pit un genou en terre et voulut baiser la main de Pisistrate. Celui-ci le releva aussitôt. Va, lui dit-il. Toi au moins, tu es homme digne de ce nom. On m'appelle tyran, ici ou là, mais je ne suis que moi. Allez, gagne ta vie et celle des tiens. Je te retrouverai au marché.